Alors que les petits Américains rentrent à l'école avec des cartables pare-balles, que la planète nous fait savoir qu'on commence sérieusement à les chauffer et que la guerre est à nos portes, on se demande si c'était mieux avant. Ben nous, on vous dira ça après. Bienvenue dans CMA. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans C'était mieux après saison 2, même si on est resté aussi là tout l'été. D'ailleurs, si vous avez raté des épisodes, sachez qu'on a parlé sport, mode, vie quotidienne, amour et sexe, en fait, comme d'habitude. Le tout est à retrouver sur vos plateformes de podcast, mais aussi sur le site radio-g.fr. Ce soir, en cette rentrée, on retourne au bureau, retrouver notre secrétaire, alors un ou une, on ne sait plus. Pourtant, le marchand de sable nous fera nous assoupir, à moins que ce soit la drogue, et nous reverrons de grands voyages autour du globe. Voici le sommaire. Il y a quelques semaines, elle nous parlait de lettres d'amour. Les trois lettres de ce soir sont moins glamour. Bonsoir Manu, de quoi parle-t-on ?
Alors ce soir, je consacre ma chronique à l'histoire de la substance produite en 1938 par le chimiste suisse Albert Hofmann sous le nom de LSD.
Ok, tu as des échantillons pour nous ce soir ?
Plein !
Plein ! Eh ben disons, ça va être beau. Ouais. Quoi de mieux qu'un homme pour parler des femmes ? C'était ça ou Manu qui montre ses seins pour manifester. Bonsoir Robin, quel est ton sujet ?
Bonsoir, mais pour ma part je vous parlerai d'une partie de l'histoire qu'on a assez peu connue et pourtant qui représente 50% de toute l'histoire mondiale. C'est l'histoire des femmes.
Ok, 50% effectivement. Si les hommes parlent des femmes, ils en deviennent aussi, pour le fun ou pour le spectacle. Bonsoir Mathias.
Bonsoir.
On drague ce soir ?
Oui, c'est ça.
Ok. Voilà. Ça, c'est du teasing. Hein.
Voilà. C'est... Bah écoute, je sais pas quoi dire de plus. On drague ce soir.
D'accord. Bah alors, au vu de certaines drag queens, en tout cas, on répondra peut-être à la question de Lucie. Cette auditrice nous demande en effet si la vie extraterrestre existe. Voilà, le Graal répondra ce soir. Quant à la deuxième partie de l'émission, elle verra Florian, Nicolas et Olivier qui nous parleront de bateaux, de sommeil et de travail. Bonsoir les garçons. Il est temps maintenant de découvrir les premières chroniques de CMA. On appuie sur le champignon pour commencer et on se shoote avec ses lettres et ses mots. Voici la chronique de Manu. J'ai nommé du LSD, un jeu sur elle et des caquets dans l'univers qui condamne. Je voyage avec l'alcool. Eh ben dites donc, ça réveille les cages à miel.
Alors, pour cette chronique, j'ai pris le temps d'étudier la question à fond.
Oh là !
Car elle sous-tend un usage non légal et il convient de ne pas raconter n'importe quoi. Quand même, on est un peu responsable.
C'est vrai.
Cependant, il s'agit pour intéresser nos auditeurs d'être un peu rigolo. Alors, je me suis amusée à recenser les différents surnoms de cette substance. D'ailleurs, est-ce que vous les connaissez ?
Bah c'est quoi, ils ont des noms à rallonge.
Ouais, parce que Hugo... Non, à rallonge, non, les surnoms.
Ah, les surnoms du LSD.
Ouais, qu'on lui a donné d'ailleurs. Parce que non, je vous ferai l'affront de vous dire le mot d'origine.
Ouais.
C'est trop compliqué. Mmh. Alors, il y a acide, as,
ah, oui.
Buvard, yes. Blotteur, timbre, non, parce qu'on le dit à la française, carton, petri, peu, toncard, cube, trip. Voilà.
Ah oui, bah non, je ne connaissais pas tant que ça en fait.
Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, certainement d'autres.
Mais... En même temps, je pense que quand on est sous cette substance, on trouve toujours plein de noms.
Je pense aussi, ouais, effectivement. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que cette molécule est rentrée dans le langage courant pour un usage qui s'est peu à peu évaporé. Mais pas tant que ça, vous allez vous en rendre compte. Alors lui, l'SD peut également se présenter sous différentes galéniques, c'est les formes en fait qu'on donne aux substances. Alors ça peut être des gouttes, des comprimés, des petits carrés de plastique ou des blocs de gélatine solubles dans l'estomac ou encore des micro-pointes. Voilà, ressemblant un peu à un bout de mine. Comme ça.
Le crayon.
Voilà, okay. Je crois que j'ai fait le tour, à peu près.
D'accord.
À ce jour. Voilà.
On achète ça où ?
Ah, bah ça s'achète pas.
Ah, pardon.
Ah, mais tu es impatient.
À la pharmacie du coin.
Alors, parce qu'on a l'impression que c'est un télé-shopping qu'elle nous fait, là, avec toutes les versions.
Pages, mais rassurez-vous, aujourd'hui, je me lance en freestyle.
Ok.
Ouais. Alors, beaucoup plus sérieusement, parce qu'ici, on est quand même vachement sérieux, je parle aujourd'hui du LSD, car elle pointe le bout de son nez sous forme d'essais cliniques, notamment en Suisse, son pays d'origine, quand même. Est-ce que vous saviez ça ?
Non, on savait
bien les rayer. Du chocolat et du LSD.
Et voilà, on se demande pourquoi.
Ricola, oui.
c'est pas Ricola. Alors, on va revenir d'abord à sa découverte qui fut fortuite, le saviez-vous. Le LSD, c'est un dérivé synthétique produit à partir d'un champignon, comme le disait Bruno, qui est un parasite des céréales. L'ergot de seug, ça parle un peu, qui peut s'attaquer également au froment et à l'orge. Il contient une grande quantité d'alcaloïdes, dont le mot est très très compliqué et je ne vous le dirai pas ce soir. Mm-hmm. Voilà. Alors c'est en 1918 au sein d'un laboratoire, laboratoire Sandoz pour ne pas le nommer, à Bâle, ah oui, en Suisse, que ce fut découvert. Alors le professeur Arthur Stoll identifie le premier des 12 alcaloïdes toxiques contenus dans l'ergot de seigle, l'ergotamine. Voilà. Alors, sous sa direction, Albert Hofmann, dont je parlais plus avant, un chimiste suisse, fut chargé de travailler sur les alcaloïdes dans le but de trouver une molécule permettant de réguler la pression sanguine. Donc, c'est sur des recherches sur la pression sanguine, au départ, qu'on a découvert quand même le LSD.
Ah bah les voilà, premiers essais, ça devait être sympa.
Ah bah justement.
Comme il ne connaissait pas.
Ouais. Donc Hofmann, là, il travaille sur, sur ses petites molécules. Et puis, à un moment donné, il découvre le LSD, qui est la 25e substance découverte appartenant à ce fameux champignon. Mm-hmm. Voilà. Et pourtant, il a bien failli être abandonné, le LSD. Alors, à l'époque, il ne s'appelait pas comme ça. Lors des tests pharmaco sur la pression sanguine, qui était la recherche initiale, la molécule présentait un effet... une activité, on va dire, inférieure à celle de l'ergotamine que je citais précédemment. Du coup, bah, c'était pas très intéressant. Mmh. Et puis en plus, ça provoquait de l'agitation chez les animaux qui étaient testés. Donc finalement, ils ont failli l'abandonner. Il a fallu attendre 1943, donc après, enfin pendant la guerre, mais on sait bien que la Suisse... Bah, c'est neutre, un peu neutre. Oui. Donc voilà, pour que les deux chimistes Hofmann et Stoll reprennent leur recherche sur le LSD après avoir réussi à en obtenir la cristallisation sous forme de tartrate.
Et pourquoi juste ça ils ont repris alors?
Ben, je ne sais pas, ça j'ai pas retrouvé la source, ouais, de cette information, mais c'est un peu mystérieux. Mmh. Parce que
à mon avis ils en ont pris, puis ils ont vu que ça.
Si vous faites des recherches sur le LSD, et ben finalement il n'y a pas grand chose qui en parle parce que tous les travaux de recherche ils ont un peu été détruits, effacés. Voilà, c'est un peu complotiste ce que je dis, mais c'est une réalité. Voilà, tous les
écrivains. À mon avis, pendant la guerre, on devait rechercher ce genre de molécules pour rester.
Et alors, c'est lors de cette étape de purification qu'Hofmann vit apparaître des formes colorées. Voilà, il fut en proie à des petits délires incontrôlables. Voilà, il venait de vivre son premier trip, mais il ne le savait pas encore. Voilà, alors il chercha à mieux connaître les effets de cette substance, puis il ingéra un petit peu plus tard, volontairement, du coup, 0,25 mg de LSD. Qu'il pensait être une substance voilà, tout à fait anodine, et du coup le dosage plutôt faible. Voilà. Sauf que bah, ce n'était pas le cas, parce que 0,25 mg de LSD, bah, c'est puissance 10 000 d'une autre substance, en fait.
D'accord.
Il faut savoir que le LSD est la substance psychoactive la plus puissante recensée à ce jour.
Ah oui.
C'est vous dire que voilà, faut pas trop rigoler avec ça. Ça provoque quand même des petites illusions, des hallucinations kaléidoscopiques. Voilà, c'est merveilleux. Alors, pendant plusieurs heures, jusqu'à retourner chez lui, ce petit monsieur là, il a vécu quand même des choses voilà, un petit peu impressionnantes. Il a demandé à son assistante de le raccompagner chez lui. Puis pendant qu'il rentrait chez lui, il avait l'impression d'être passé un peu dans un autre monde. Et ce qui est curieux, c'est que une fois revenu à son état de base, eh ben, il gardait le souvenir de son expérience vécue. Tout le souvenir de son expérience.
D'accord.
Vécue. Voilà. Alors, comme c'est un scientifique, il a recommencé l'expérience. Voilà, à des dosages un petit peu différents.
Oui.
Et du coup, il s'est rendu compte qu'à des dosages élevés, eh ben, ça produisait quand même des effets négatifs. Voilà, ce qu'on appelle, nous, communément, des bad trips. Et puis, c'est plutôt à l'atterrissage que c'est compliqué, parce que bad trip égale effet burk-burk, voilà, plutôt déplaisant, avec bah, la survenue d'un état de confusion mentale, des angoisses, des crises de panique.
Et tout ça, il l'a fait sur lui?
Oui, il l'a fait sur lui, oui.
Ah, la vache.
Oh, ouais, ils sont un peu...
Oui,
ah, mais c'est pas tout.
Mais il aurait pu y passer.
J'ai un petit peu de temps, là, devant moi. J'ai été... voilà. Alors, cet état grave peut être durable, hein, faut quand même le savoir. Et puis, le sujet peut être victime d'hallucinations assez effrayantes. Voilà, parfois, l'anxiété peut aller jusqu'à la crise de panique, avec le risque que le sujet ne mette fin à ses jours.
Ouais.
On en revient à mes rubriques un peu suicidaires d'il
c'est
y a deux ans. Je
ne sais
c'est
pas
vrai,
si
vous vous souvenez, ça manquait, je trouvais. Donc, voilà. Alors, Albert Hofmann, il était persuadé que ce produit allait ouvrir un champ d'expérimentation psychique et thérapeutique extraordinaire. Voilà, il en fait ainsi part à son laboratoire sans dose. Il y a peut-être des pépettes à se faire, on ne sait jamais. Alors, du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à déployer le produit. Voilà, alors pour commencer à déployer le produit, ils ont déposé des brevets, d'abord en Suisse et puis après aux États-Unis.
Mais pour soigner quoi alors ?
En 1948.
Ça soignait quoi ? Ils l'ont proposé.
J'y arrive. Alors cette molécule sera utilisée par des neurologues et des psychiatres dans le traitement de certaines psychoses, après l'avoir eux-mêmes testée. Parce que c'est pas le tout de le faire ingérer, mais il faut le tester pour pouvoir mieux en parler. Et eux, ils avaient dans l'idée, quand même, les psychiatres, que ça allait transformer leur psyché au point de vivre une expérience schizophrène. Donc ils disaient, si moi je l'ai vécu, je pourrais mieux comprendre le patient dans son délire.
Ah, c'était pas pour les patients, c'était pour les professionnels.
Au départ, c'était pour les professionnels, pour se rapprocher de ce que ça pouvait produire d'être psychotique. Puis ils se sont rendus compte que c'était une mauvaise idée. Mais ils se sont rendus compte quand même que ça avait un effet psychotrope. Donc ça pouvait être intéressant quand même en termes thérapeutiques au niveau de la psychiatrie. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces psychiatres ? Et ils se sont fait approvisionner par Sandoz qui lui voyait un intérêt parce que il développait une molécule. Et puis en même temps, il y avait des psychiatres pour faire les tests, les essais cliniques, etc. Alors on y va gaiement. Ça représente un débouché commercial, une utilisation médicale de ce produit. Donc super. Allez hop, on y va. Et c'est comme ça qu'on a distribué des milliers de doses de LSD entre 1950 et 1960.
À 10 ans quand même.
Ouais, 10 ans aux États-Unis et même à Paris. Le professeur Deniker de l'hôpital Sainte-Anne, qu'on connaît bien, expérimenta le LSD avec ses jeunes confrères et étudiants. Parce que,
Tranquille. C'était sous ordonnance encore, rassure-moi.
C'était réglementé. Quelques-uns auront du mal à s'en remettre et puis l'un d'entre eux se suicidera quand même. Donc c'est pas très très rigolo si c'est pas très maîtrisé. Alors, quant à la CIA, elle fit travailler des psychiatres militaires en leur demandant de trouver le moyen d'utiliser le LSD comme un sérum de vérité. Lors des interrogatoires des espions, puis des prisonniers de guerre, allons-y gaiement, mais aussi de s'en servir dans une guerre chimique comme agent incapacitant. Parce que comme t'es là en train de tu fais pas la guerre. Puis en plus, comme t'aimes tout le monde, tu fais encore moins la guerre. Voilà. D'ailleurs, certains ont vu la main de la CIA dans les événements de Pont-Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de Pont-Saint-Esprit. C'est un petit village français qui a été pris de délires, d'hallucinations incroyables dans les années 60, début des années 60, fin des années 50. Où tout le monde a été pris de délires incroyables. Et en fait, on s'était rendu compte que la farine du boulanger avait été mélangée.
Volontairement.
Oui, quand même.
C'est ça qu'on ne sait pas.
Ah. Voilà. Avec l'ergot, peut-être, avec le champignon qui était sur le
sol. C'est ça, ils ont retrouvé des traces d'ergot de seigle dedans, donc ils ont fait le lien, mais certains pensent que c'est la CIA qui a un petit peu pulvérisé de la poudre de terlin pimpin.
Je pense que la CIA ne sait même pas que ce village existe, hein. Faut pas non plus être parano.
Je ne sais pas. Le LSD quitte les laboratoires de recherche et les essais cliniques pour entrer dans le domaine de la contre-culture à ce moment-là. Puis en même temps, c'était réglementé, mais pas trop, parce que finalement tout le monde l'avait en accès, psychiatre, un étudiant en médecine, à Lucie, Et la substance très consommée dans les années 60-70, elle est particulièrement liée à la culture hippie et rock de l'époque. Ça s'inscrit quand même dans l'époque de la guerre du Vietnam, pleine contestation, peace and love, on est en plein dedans.
Et elle n'était pas chère à l'époque ?
Elle n'était pas très très chère, elle était assez accessible effectivement. D'accord. Et puis c'est un peu au même moment dans la Silicon Valley qu'on voit apparaître de grandes avancées technologiques, l'informatique. Il y en a qui disent quand même qu'ils étaient un peu sous LSD. Ils ont mené une petite expérience auprès de 48 ingénieurs informaticiens à l'époque. Ils leur ont posé 48 problèmes qu'ils n'arrivaient pas à résoudre depuis des mois. Ces 48 problèmes ont été réglés sous LSD.
Ouais. Alors on va peut-être mettre des guillemets. Hein,
des guillemets.
Voilà, parce que ceux qui nous écoutent vont se dire, si je veux réussir mon entreprise, il faut que je me shoote au LSD.
Oui, mais j'ai quand même dit au départ que c'était quand même dangereux.
Oui, c'est très dangereux rien n'a été prouvé sur son efficacité. Donc, on y va doucement. Hein.
C'est là que je vais terminer quand même ma chronique, parce que quand même, il y a quand même des effets psychotropes. Alors déjà parce que le temps passe et que je me fais sermonner, et parce qu'en plus quand même à partir de 2000 en Suisse on a redonné une autorisation à cette molécule d'entrer dans des essais cliniques, et actuellement il y a des essais cliniques qui sont faits à partir du LSD justement pour traiter les anxiétés massives, les syndromes dépressifs et les post-trauma. Donc on pourrait le retrouver, ce fameux LSD, dans des thérapeutiques dans l'avenir. Pour le moment, on n'en a pas fait la démonstration du bénéfice par rapport aux psychotropes existants. Donc, on verra si c'était mieux après.
Oui, très bien. Merci Manu. Donc on rappelle bien sûr que la drogue, c'est pas bien.
C'est pas bien.
Et que si, voilà.
Quand ça occure la mort.
En plus.
Oui, quand même.
Et donc, si vous en avez, eh bien, il faut le rapporter à Manu.
Très bien, j'en ferai bon usage.
Alors Lucie, elle n'a pas besoin de drogue. Elle regarde les étoiles et imagine la vie extraterrestre. Mais dans le doute, elle demande au Graal. Voici sa réponse.
Question de Lucie. Est-ce qu'il y a une vie extraterrestre ?
Statistiquement, oui, mais il n'y a pas que la distance qui nous sépare. En gros, voyons la Terre comme un seul grain de sable dans la dune du Pilat, les autres grains étant d'autres planètes. Voilà, ça vous donne une idée des possibilités. Une de ces planètes renforme-t-elle la vie ? Mais encore faut-il définir ce qu'est la vie. Le fait que les extraterrestres nous ressemblent serait quand même étonnant. Les auteurs de science-fiction ont beau imaginer des formes de vie, là aussi, les possibilités sont infinies. Et puis, la vie que nous connaissons est éphémère. On naît, on meurt. C'est vrai aussi pour la vie elle-même. Les dinosaures ont vécu et ont disparu. Les humains aussi disparaîtront. Et en tout cas, on fait tout pour. C'est donc peut-être aussi vrai pour les extraterrestres. Il n'y a pas que la distance qui nous sépare, il y a peut-être eu de la vie sur une planète grain de sable à une époque lointaine et elle s'est éteinte sans qu'on la voie. Du coup, il est possible qu'il y ait des extraterrestres, mais les possibilités qu'on se rencontre est faible. Et heureusement, car on leur ferait immanquablement la guerre, car ça, c'est notre nature.
C'était le Graal à retrouver sur vos plateformes de podcast en recherchant Question Graal ou en allant sur le site radio-g.fr rubrique podcast plus. On parlait de drogue avec le LSD de Manu il y a quelques minutes. Lui, il se drogue au MLF. C'est une autre drogue. Surtout que c'est son anniversaire, en plus, aujourd'hui. Hein.
Oh, joyeux anniversaire.
Ah, j'aurais pas dû dire.
Voilà. Donc là, le MLF, effectivement, est une drogue très forte et parfois violente. Mais il faut dire qu'il y a de quoi. Voici la chronique de Robin.
Debout, fameux esclave, débrisons nos entraves. Debout.
Et c'est pour ça, pour manifester aussi, je vais mettre seins nus pour cette... Non, non.
Ça a moins d'impact, hein.
Ouais. Donc ouais, les femmes revêtent...
Non, Manu. Manu s'est élevé.
Surtout à la radio, ça a moins d'impact.
À la radio, oui, ça a moins d'impact aussi. Vas-y, Robin.
Les femmes représentent environ 50% de la population mondiale, quelles que soient les époques, et pourtant on ne connaît que très peu leurs histoires. Depuis Hérodote, le père de l'histoire depuis le 5e siècle avant notre ère, les historiens écrivent le passé et le décrivent. Et pourtant, c'est que depuis la deuxième moitié du 20e siècle que le sujet de la place de la femme dans les sociétés a été réellement étudié. Je vais essayer en 5 minutes de vous faire une liste non exhaustive de la place de la femme dans différentes sociétés. Et non, je vous sens venir, la place de la femme, c'est pas dans la cuisine, tout ça. Hein.
Je sens
les blagues venir. Bon, déjà, petite question pour vous, oui. Chers auditeurs, auditrices et collègues. À votre avis, quelle était l'époque la pire pour les femmes ? Ancienne, Moyen-Âge, Renaissance, après Napoléon, tout ça.
Il y a vraiment beaucoup quand même.
La pire.
Hein. Le Moyen-Âge, ça devait pas être terrible, terrible quand même. Mmh. C'était très masculin.
Les femmes en général, les femmes dans les le.
Oui, c'est ça, les femmes, elles sont considérées comme des esclaves. Enfin...
C'est le 19e siècle.
19e siècle, ouais.
Ouais, alors moi j'ai franchement pas d'idée.
Ouais. Et bah bon, alors ça étonnera pas tant que ça, mais c'est l'époque antique quand même, et le Moyen-Âge, on verra que c'est pas si mal pour les femmes au final.
Ah bon, d'accord.
Donc l'Égypte antique, la plus connue et tout, reste une civilisation où la femme peut demander justice devant le tribunal, même si c'est très vieux, etc. Oui, elle a des droits. Même 1000 ans avant Jésus-Christ, elle avait plus de droits que dans certains pays aujourd'hui.
Bah, elles peuvent... Cléopâtre, elle a bien gouverné, donc...
Oui, et bah, justement, donc elles peuvent travailler, draguer, en dehors du mariage toutefois, il y a quand même cette institution. On a retrouvé même des outils de maquillage, bref, une vie presque normale. Ouais. Et... Tu parlais de Cléopâtre, Bruno. Justement, faut bien différencier les femmes qui avaient l'élite femmes.
Pouvoir,
en fait,
ouais.
Ça va dépendre de ton statut social, toutes les capacités sociales que tu as. Mm-hmm. À la même époque que les Égyptiens, les autres grandes civilisations traitent leurs femmes à peine mieux que leurs esclaves. En fait, la Grèce à Athènes, par exemple. À Athènes, le berceau de la démocratie, de la philosophie et de moult raffineries, et ben en fait, ils sont pas du tout en avance sur leur temps. Au contraire, les femmes étaient cantonnées dans leur foyer, à devoir filer le laine pour faire des vêtements pour toute la famille, et ça toute leur vie. L'exemple parfait de la femme parfaite, hein, c'est le mythe d'Ulysse, puisque la femme reste à la maison, à filer, en attendant pendant 20 ans. Enfin bref.
Qu'ils reviennent.
Oui, c'est ça. Et elle fait rien en attendant que son mari.
Elle tricote.
les femmes à Grèce antique n'ont pas de droit, elles n'ont pas de pouvoir politique, elles ne peuvent pas travailler, ni vraiment trop sociabiliser. Alors que les hommes, eux, vont au bordel pour pas cher. Hein. Ça, c'est... Et selon les récits, on apprend même que les femmes peuvent être lapidées si elles sortent en public. Voilà.
Ah oui.
Oui, encore aujourd'hui.
Oui, encore aujourd'hui.
On les siffle aujourd'hui, c'est pas mieux.
Des cailloux dans la tête.
C'est... Oui, c'est sûr, ça fait mal aussi.
Le Moyen-Âge, la fameuse époque sombre, hein, bah, au final, c'est pas si sombre que ça. Au contraire, les femmes ont un rôle bien plus important dans la société que lorsqu'elles étaient en Grèce antique. Elles peuvent travailler au champ, elles peuvent tenir une entreprise avec leur mari quand elles sont en ville, etc. Elles peuvent gérer de l'argent. Mais bon, certes, elles s'occupent quand même aussi de la maison, mais elles s'occupent réellement de la maison. Elles ne sont pas juste sous l'autorité du mari. Ce qui, pourtant, va à l'encontre de la morale de l'Église que l'Église essaie d'imposer à cette époque. Sauf que la réalité de la vie, en fait, ne permet pas que l'Église impose tout ça. Le pire en France pour la femme est quand même la période des Lumières. Enfin, la fin des Lumières, puisque petit à petit, dans le courant du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, la femme se retrouve oppressée par la pression sociale de ne plus pouvoir prendre vraiment de la place. Durant la Révolution française, la glorieuse, les femmes, même si c'est elles qui lancent les révolutions, qui lancent toutes les constatations, parce que c'est encore elles qui gèrent le pain, c'est elles qui gèrent tout ça, elles gèrent des trucs, mais en fait, à la période du serment de Jeu de Paume, tout ça, déclaration des droits de l'homme, en fait, elles sont mises de côté. Et en fait, jusqu'au code civil de 1804 de Napoléon, en fait, elles perdent des droits. Et le code civil donc, de 1804 donne à la femme vraiment son statut d'inférieur, de mineur légal, et qui va encadrer les femmes dans la société jusqu'à encore très récemment, puisque c'est des bases du droit qui sont retrouvées dans les républiques futures. Et pour conclure, on peut dire aussi que, oui, aujourd'hui, les femmes sont quand même de plus en plus légales de l'homme. C'est un être humain, en fait.
C'est légal, une fois.
C'est légal. C'est bien, on prend en prison si on en est une.
Mais, ouais, mais l'histoire, quand même, nous a montré qu'en un rien de temps, leurs conditions peuvent faire un grand bond en arrière. Donc, ayons conscience de cela pour ne pas être la risée de l'histoire si jamais un jour ça arrive.
C'est clair. Merci, Robin, pour ces informations. Elles n'ont de femme que l'apparence, et encore de façon si caricaturale qu'elles en deviennent une créature inclassable. Tout comme l'est le chroniqueur qui nous en parle. Voici la reine Mathias. Je pense qu'on comprendra cette chanson à la fin de ta chronique.
Peut-être.
Peut-être.
Alors ce soir, je vais vous parler du premier garçon qui a mis une robe et qui s'est posé des fossiles.
Olivier, alors, c'était comment?
C'était bien.
J'ai l'image, du coup, c'est très
perturbant.
Alors du coup, je vais vous parler des drag queens en quelques mots. Pour la définition, sans en être vraiment sûr, à l'origine, on pense que drag, ça vient de tout drag. Le verbe anglais, laisser traîner sa robe, sa jupe.
Ah, d'accord.
Et bah, queen, reine, tout simplement. Enfin, donc drag queen.
La reine traînée, quoi.
La reine des traînées, oui.
Je suis pas sûr que c'était vraiment la signification. Donc c'est donc une personne, généralement des hommes, qui vont s'habiller et se maquiller en femme de façon exagérée. Pour un spectacle, un défilé militant, ou pour le monde de la nuit, dans les bars ou les boîtes. Une drag queen, c'est un spectacle vivant, elle sait chanter, danser ou lip-syncer. Alors je parle du lip-sync.
Oui, c'est quoi le lip-sync?
Ah, c'est quoi le lip-sync d'après vous? Sauf ceux qui...
C'est lèvres. Lèvres, lip-sync.
J'aurais dit beatbox, moi.
Oui,
du beatbox, un truc comme ça.
Alors en fait, c'est du playback.
Ah d'accord, c'est le mot anglais pour le playback.
C'est du playback, en fait, c'est vraiment...
Synchronisation des lèvres,
c'est une synchronisation des lèvres sur une chanson, mais c'est même plus que ça. Il y a tout un... C'est danser en même temps, c'est vraiment faire le show sur une chanson.
D'accord.
S'approprier la chanson, quoi.
En fait, c'est faire comme Madonna à ses concerts, quoi. En fait.
C'est un peu ça, voilà.
Mais en fait, Madonna, c'est une drag queen.
C'est ça, voilà, sans doute.
C'est
ça.
C'est un homme, en fait.
C'est Maradona, ouais.
c'est possible.
Non.
On va lancer le même ordre.
Du coup, alors, il y a drag queen, donc c'est plutôt un garçon en général. Alors, on va pas rentrer dans le débat, c'est plutôt un garçon en général qui va prendre l'esthétique féminine. Et il y a aussi les drag kings, qui sont des femmes qui vont plutôt prendre l'esthétique masculine.
D'accord.
On sait qu'il y a longtemps, il y avait les femmes qui ne pouvaient pas jouer au théâtre. Du coup, c'était les hommes qui s'habillaient en femmes pour jouer au théâtre. Mais ça n'a aucun lien. Je me suis renseigné. En fait, voilà.
Merci pour cette information.
Voilà. Donc, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci.
Bisous. Du coup, non, donc ça n'a aucun lien. Pour trouver l'origine en fait, du drag queen, il faut aller en 1880. C'est William Dorsey Swan qui était là, à la base un esclave qui a été libéré et qui est connu pour être la première drag queen.
D'accord.
Est-ce que ça vous parle un peu? Pas du tout.
Non, pas du tout.
Je l'ai bien voilà. connu. Ouais,
ouais, ça, c'était un copain à toi, du coup
Non, bon, c'était, j'imagine c'était à New York, quoi.
C'était aux États-Unis. Il a été la première personne, en fait, à diriger un groupe de résistance queer et la première personne à s'identifier comme Queer of Drag. Mm-hmm. Pendant 10 ans, il a organisé, en fait, des balles à Washington, où des anciens groupes d'esclaves formaient des, en fait, formaient la plus grosse popularité de ces balles et s'habillaient aussi en drag queen avec des robes de soie et voilà, ça devait être assez canon, j'imagine, à l'époque. C'était assez compliqué parce qu'ils se faisaient souvent arrêter pour des motifs que tu pas très justes. Ça s'est pas très très bien terminé, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas très fun. Mais c'était le premier, voilà, qui s'est vraiment proclamé drag queen. Il y a d'autres drag queens ensuite qui ont vu le jour. Il y a eu Marsha P. Johnson.
Enchantée.
Voilà. Alors, ce qui est plus connu dans le monde LGBT, qui était à New York, c'est l'une des drag queens les plus connues. C'était une femme trans. Okay. Alors, c'est toujours la limite entre femme trans, drag queen, tout ça, c'est un peu troublant. Donc, du coup, elle a participé aux émeutes de Stonewall. Je vous en avais parlé pour l'origine de Gay Pride. Ouais. Du coup, elle a participé activement justement à tous les défilés de la Gay Pride, tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous voulez en savoir plus, sur Netflix, il y a un documentaire qui en parle. Marsha P. Johnson, histoire d'une légende. Voilà, qui est un très beau reportage. Il y a aussi la drag queen Divine, qui s'appelait Glenn, qui est un acteur et un comédien à Los Angeles, beaucoup plus connu pour son alter ego Divine, qui a commencé dans les balles drag. Alors ça m'a fait rire, les balles drag, du coup. C'est, j'imagine un peu le truc.
J'imagine. Ouais.
À l'époque, il rêvait d'incarner Elizabeth Taylor. Et c'est assez drôle d'imaginer ça parce que c'était quelqu'un d'assez assez costaud, qui était en surpoids et qui portait des vêtements que quelqu'un en surpoids ne portait pas, en fait. C'est un peu déroutant. Et il en a beaucoup joué, c'était beaucoup dans la provoque. C'est un personnage assez déjanté, assez anticonformiste, qui a fait beaucoup de films, qui a su finalement, avec le temps, après avoir choqué, être dans la provoque et tout, il a su finalement se faire apprécier d'abord de sa communauté et finalement d'un plus large public. Il a même, à la fin de sa carrière, fini par faire des rôles masculins.
D'accord.
Et il aurait dû avoir un rôle dans la série Marié, deux enfants.
Ouais.
Je pense que les plus âgés connaissent, du coup.
Donc Manu a dit oui. Maintenant, il dit non. Au début que t'as dit ça, il dit non.
mais voilà. Et alors, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, il se rasait le haut du crâne et les sourcils pour vraiment pouvoir faire un grand maquillage avec des grands cils, des grands make-up et avec des grandes perruques. Enfin, c'était très particulier.
Non maquillé, ça devait être bizarre quand même.
Oui.
Ça, c'est trash. Hein,
ouais, c'était très très particulier.
La photo est en train de passer autour des chroniques.
Et il a une histoire très touchante que j'ai pris plaisir à regarder. Du coup, il y a un documentaire qui existe qui s'appelle I Am Divine, qui est un documentaire qu'on trouve sur les plateformes payantes mais qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube. Moi, cherchant bien.
Okay.
Et c'est une histoire vraiment très, très touchante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut durer très longtemps sinon. En continuant mes recherches, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de drag queens. Chacune a une histoire, un univers, un look, une cause, une envie. Certaines sont délicates, d'autres sont plus exubérantes. Il y en a même qui ont de la barbe. Est-ce que vous vous rappelez par exemple de Conchita Wurst?
Oui.
Eh ben,
l'Eurovision, oui.
C'est ça, la chanteuse autrichienne qui gagna l'Eurovision en 2014. Eh ben, aujourd'hui, elle est membre du Drag of Queen en Allemagne avec le chanteur de Tokyo Hotel. Ça me fait rire quand je l'ai revu.
C'est étonnant.
Une drag queen.
Et du coup, est-ce que vous savez ce que c'est Drag of Queen, du coup, à l'émission en Allemagne?
Non.
Pas du tout.
Ça fait quoi?
Alors, en fait, c'est à l'origine l'émission Drag Race RuPaul.
Ah,
mais version allemande.
C'est l'origine, d'accord. C'était donc, avant Drag Race. Non, c'est...
C'est après, c'est... en fait.
Oui, c'est une copie de Drag Race.
C'est une copie de Drag Race, c'est une adaptation. C'est un concours de drag queen au cours duquel RuPaul, qui est à la fois présentatrice, mentor et source d'inspiration pour les candidates, sélectionne la prochaine superstar américaine du drag.
D'accord. Donc ça, c'est pour RuPaul, d'accord.
Ça, c'est pour RuPaul. D'ailleurs, RuPaul a elle aussi marqué les esprits par une grande carrière. C'est une drag queen américaine, chanteuse, danseuse, actrice et acteur. Et parolier qui a connu la célébrité dans les années 90. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail. J'ai regardé un peu vite fait sa carrière.
Il, très connu,
vraiment badass. C'est canon. Grâce à son émission, il a reçu 4 Primetime Emmy Awards, qui est un prix qu'il reçoit là-bas en Amérique pour les émissions télé. Il a aujourd'hui 14 saisons de cette émission.
Ah, quand même.
Ouais, vraiment.
Ah oui.
Il y a même un espèce de spin-off pour les anciens de l'émission.
Une série dérivée,
ouais, d'accord. All Star et tout. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien. Et du coup, en Allemagne, ils ont fait Drag of Queen. Ouais. Ça n'a pas trop bien marché, apparemment. Ça n'a pas duré. Et nous, en France, on a fait Drag Race France.
Ouais.
Ouais. Chronique qu'on a découvert cet été. donc voilà.
Qui était diffusé cet été. Ça a marché, ça ?
Alors, ça a super bien marché. Ça a été présenté par Nikki Dolls.
Oui. Et Nikki Dolls ?
Nikki Dolls, du coup, drag queen française qui est partie vivre à New York en 2015, qui a fait toute une carrière là-bas. Elle a participé à la 12e saison, justement, de
la version américaine.
De la version américaine, qui n'est pas restée très longtemps, mais que, voilà, qui a eu au moins le plaisir de participer. À chaque émission, en fait, il y avait un mini défi, un maxi défi, un défilé. Et il y avait 2 candidates à la fin qui restaient en danger, en fait, qui étaient sur le point d'éliminer. Il fallait qu'elles se battent dans un lip sync final. Et c'était un espèce de combat de playback en gros, et pour garder sa place dans l'émission.
Légendaire,
c'est ça, c'était assez canon. Et j'étais épaté de voir sur les réseaux de plus en plus la proportion que ça prenait. Enfin, je m'attendais pas à ce que. Je sais que dans la communauté, en tout cas, ça allait prendre de l'ampleur, que les gens allaient s'approprier l'émission et qu'on allait suivre, mais je pensais pas que ça allait dépasser la communauté. Et à Paris, on voit dans les vidéos sur les stories Instagram et tout, le monde dans les rues, sur les terrasses de café, c'était, on aurait dit, un match de foot, quoi. C'était fou. Tu peux passer l'enregistrement ?
La première grande reine, le Drag Race France.
Non, déjà ?
Et... Paloma !
Ah oui, quand même. Ah oui, c'est grand stade, là.
On est spoilé là, j'avais pas vu la fin.
Du coup, c'est Paloma qui a gagné. Et ce qui était assez fou, c'est qu'en fait, il y avait 3 finalistes. Ils ont fait 3 enregistrements différents, parce que c'était enregistré à l'avance, hein, c'était pas en direct.
Ah, pour pas qu'il y ait une fuite.
Pour pas qu'il y ait une fuite. Même elle ne savait pas.
Ah, elle l'a découvert le soir de la diffusion.
Elle l'a découvert le soir de la diffusion. Qui est allée gagner ?
Comment ça ?
D'accord.
Si, elle a participé, donc comment ils ont fait ?
Eh ben, ils ont enregistré 3 fois.
Ils ont enregistré 3 fois.
T'as gagné.
Voilà, elles ont gagné toutes les 3 par enregistrement.
Très bien.
Elles ont gagné toutes les 3.
Donc, c'était assez fou.
Mais c'est pour ça que c'était pas du tout...
Non.
Ouais, c'était...
Enfin, c'était très vite, oui, la remise du trophée.
Oui, c'est pour ça que la version...
C'était assez étrange.
Oui, voilà.
D'accord. C'est très bien. Merci Mathias. Dans quelques minutes, on vous emmènera en Vendée où nous trouverons beaucoup de sable sur notre bureau. Mais avant, c'est la pause. Le Graal nous parlait d'extraterrestres tout à l'heure, le chanteur qui va suivre en déteint. Gilles Langoureau chante depuis plus de 40 ans. Il en a aujourd'hui 69, un âge qui correspond bien au thème graveleux de ses chansons. Le problème, c'est qu'il est difficile de savoir si c'est du premier ou du millième degré. Né à Auxerre, il passe un doctorat en art plastique, puis après, il part en vrille et devenant chanteur. Et le pire, c'est que ça marche. Il sort même 4 albums. Alors en fait, si on vous en parle, c'est que ça a fait notre été. À partir d'une chanson des plus improbables sur les filles d'Angers, son nom de scène c'est Gilles Dor, et voici une promo dans la ville d'Angers, ce serait bien passé.
Ange, ville d'Angers, attention danger, je vais peut-être me ranger.
Alors on vous invite à voir le clip, hein, car il a tout du vieux pervers et il en joue. Et dans sa discographie, vous trouvez également des pépites comme celle-ci. Donc il s'appelle Gilles Dor, autant vous dire qu'on va demander directement au programmateur de la radio de l'inclure, hein, dans la playlist.
T'as pas mis la meilleure.
Voilà, il y en a plein.
La glace d'été.
Il y en a plein d'autres.
La glace d'été, c'est la meilleure.
En tout cas, ça nous a fait bien rire et on voulait partager ce petit moment de grand n'importe quoi avec vous. Alors si vous avez les oreilles qui saignent, eh bien c'est normal. On va vous les soigner maintenant avec la deuxième partie de CMA. Voici le sommaire. C'est la rentrée, on retourne au bureau. Qui en plus d'être un lieu est un meuble. Bonsoir Florian, de quoi nous parle-t-on ce soir ?
Eh bien je vous parle du bureau.
Du bureau, pas le bar.
Pas le bar, le meuble, voilà.
En Vendée, il y a du sable, beaucoup. du vent, vraiment beaucoup. Et ben, rien d'autre. Ah ben si, s'il y a des bateaux. Bonsoir Nicolas, quel est ton
Bonsoir.
Sujet ?
Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler course au large, on va parler du vent des globes.
Ok. Épuisé par cette émission, vos yeux se ferment. Pas sûr qu'il va vous réveiller. Bonsoir Olivier, on parle de quoi Bonsoir. Ce soir ?
Bah, du marchand de sable.
Ah oui. Oh. Voici la deuxième partie de CMA. C'est sur un coin de table qu'il écrit ses chroniques. Et en plus, il fait ça au bureau. Voici la chronique de Florian. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux.
10-12-14 bureaux. 14 bureaux. Ouais, ça a changé.
Hein. Ouais, c'est... Voilà. Ben, bon, il y a le mot bureau. Donc,
c'est tout à fait mon style.
Oui, tout à fait, ouais. En plus.
Bon, poétique. Du coup, il fallait pas trop dire que je faisais ça au bureau parce que...
Ah, merde.
Je vais me faire virer.
Mais non. Ils sont à Los Palomas.
Non.
C'est vrai, c'est vrai. En plus. Alors, petite définition avant de commencer. À votre avis, qu'est-ce qu'un bureau ?
D'accord. Ouais, une table.
Un lieu. Alors, c'est le lieu, effectivement.
Ah oui. Moi, je voyais la table, moi, ouais.
Des fois, on passe dessous, non ?
Ah ! Oh, oh.
Là, tu fais ce que tu veux.
Un moyen de promotion, c'est ça que tu veux dire ?
Oui, par exemple.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, moins bas.
En fait, la définition est assez simple. C'est une table avec des pieds.
D'accord.
Alors, une table, on gère ça, des pieds. Mais du coup, c'est juste une surface.
Avec des tiroirs aussi.
Oui, plate,
ou voilà.
Tiroirs. Oui. Oui. Oui et non.
D'accord. Donc, on va voir l'origine de cette table. Donc
le bureau, c'est une table, voilà, qui sert à une activité de production, de travail, quand même. C'est pas une table pour manger, même si on peut manger effectivement au bureau ou sur son bureau. Mais en tout cas, ça sert plutôt à l'activité professionnelle ou à l'activité haute, enfin oui. Personnelle, quoi.
Personnelle, sur un bureau, d'accord.
Alors, le mot bureau vient du latin burellum, qui donne le mot bure.
Les robes de bure, non ?
Alors, la robe, effectivement, oui, c'est la robe des moines, par ouais. exemple, mais ils ont une bure, parce qu'en vieux français, ça désigne l'étoffe grossière, en fait, c'est l'étoffe, c'est un tissu. Et on recouvrait des tables avec ce tissu, en fait, pour protéger de l'encre ou du son des pièces de monnaie.
Oui, bah oui, ça atténue le son.
Ça atténue le son, voilà. Et donc, peut-être que ça vient, effectivement, le mot...
Bureau.
Vient de ça, bureau, ça désigne le meuble. Alors, je vais revenir un petit peu dans l'histoire en vous donnant l'identité du premier bureau de l'histoire.
Il s'appelle Marc.
Non, pas...
Marc Bureau.
Marc Bureau. Mais le premier bureau de l'histoire, en fait, c'était le sol, puisqu'on bossait par terre.
Ben oui, forcément.
Et oui. Quoi de mieux que de bosser par terre, les jambes croisées, tel un scribe égyptien qui écrivait sur son papyrus.
Il fallait se pencher et tout, c'était pas pratique quand même.
Et c'était pas pratique, effectivement. Et d'ailleurs, on écrivait aussi sur des tablettes en pierre, et c'est pareil, on écrivait par terre sur la tablette.
C'était un peu lourd à porter, quoi.
Et oui, pas bien en plus. Donc on connaissait pas le bureau, on connaissait les tables, mais on connaissait pas la table comme bureau. Puis vient l'écriture sur le parchemin, et là, on a besoin quand même d'une surface un peu plus plate, rigide et un peu plus solide, un peu plus confortable en plus pour écrire. Et donc c'est là où on invente le bureau.
Enfin, on reprend la table et on s'en sert comme bureau,
table,
quoi.
Voilà, on reprend la table pour écrire dessus.
Pas une invention extraordinaire, quand même.
Eh, quand même.
Ça reste 4 pieds une chaise, 4 pieds une planche.
Eh oui. Oui, en fait.
C'est pas non plus...
La chronique est pas...
Ben, bon, d'accord. Non, c'est le nom déjà, voilà. On invente...
Alors, le second bureau de l'histoire, c'est le pupitre. C'est-à-dire que là, on invente, par contre, on invente. On réfléchit un peu et on se dit que c'est plus pratique d'écrire avec une planche inclinée. Donc pour écrire, pour poser un livre. Et donc justement, les moines copistes, par exemple, ils écrivaient comme ça sur des pupitres.
Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très pratique. Pour lire, je suis d'accord. Mais pour écrire, on a toujours le bras en tension. Ça ne devait pas être pratique quand même.
Comme ça, tout le temps.
Mais par contre, effectivement, comme ça, on ne pose pas sa main sur la feuille. Et comme c'était de l'encre qui séchait
lentement... Du coup, ça restait assez libre.
Ça restait...
La main restait assez libre pour écrire.
Ouais, je pense que c'est ça. Mais on devait avoir le coude un peu...
C'est les architectes qui ont des tableaux, enfin qui ont des bureaux comme ça assez inclinés.
Pour les dessinateurs, ils ont ça aussi. Ah bah c'est encore utilisé de toute façon.
Oui, c'est encore utilisé parce que j'ai un cousin qui est ébéniste et puis qui a une table comme ça, donc je me disais.
Ouais, enfin maintenant beaucoup c'est l'informatique.
Puis
beaucoup de ça.
Alors au fil des siècles, ce pupitre se complète d'un tiroir pour y placer le matériel d'écriture. Il devient même portable, c'est-à-dire qu'on fait des petites boîtes en fait. Avec la planche inclinée, et on le déplace partout, et on le pose sur une table, et comme ça, on peut écrire n'importe où.
C'est un bureau sur un bureau.
C'est un bureau portable, c'est un bureau sur un bureau, si tu veux.
Okay.
Alors, dès son origine, le bureau est en bois, bon, sauf celui qu'on qu'on fait par terre, mais sinon il est en bois. Il est toujours en bois d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup. Et donc il se part de décorations, de dorures, d'éléments sculptés et devient une véritable œuvre d'art.
Bah, surtout dans les écoles, oui.
Pourquoi ?
Bah, sur leur bureau, les écoliers, ils
écrivent,
ils peignent, ils sculptent, c'est des œuvres d'art.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils collent les chewing-gums en dessous, tout ça.
Voilà, c'est ça.
Et oui, c'est des collectors. Et donc on y ajoute des tiroirs, encore plus. Alors parfois ils sont bien cachés, les tiroirs.
Ah, et des tiroirs secrets.
Les tiroirs secrets, voilà, pour placer des objets secrets ou des petits élixirs, ou des poisons d'ailleurs, ça se faisait beaucoup aussi. On met des serrures et des abattants, et donc c'est la naissance du secrétaire. Puisque l'autre nom du bureau, c'est aussi le secrétaire, mais le secrétaire, il a vraiment des tiroirs.
D'accord.
Le bureau n'a pas forcément de tiroirs.
Le secrétaire, c'est le oui, il y a des tiroirs qui montent à droite, à gauche, c'est ça, et ça fait une petite alcôve au milieu. Quoi.
Bah, c'est la planche, voilà, t'as un espace pour écrire, et sur le côté et puis devant, t'as des espaces pour poser les feuilles, le papier, les tiroirs.
Et limite, on peut refermer avec un abattant.
Et on peut refermer, je vous en parlerai tout à l'heure, de ce secrétaire exceptionnel qu'on peut refermer.
Okay.
Et donc, à l'époque moderne, le bureau trouve sa place au cabinet. Alors, petit cabinet ou grand cabinet.
D'accord, on bosse aux toilettes alors.
On bosse aux toilettes, tout à fait. Non, le cabinet, c'est la pièce où la personne peut se retirer pour travailler, justement. D'accord. Alors, c'est plutôt dans la noblesse, hein, ou plutôt dans...
Ceux qui savent lire et écrire déjà, donc ça limite.
Ceux qui savent lire et écrire, bien sûr. Mais oui, non, c'est un nom de pièce d'aristocratie, dans les hautes sphères. Voilà, le cabinet. Alors, est-ce que vous connaissez, du coup, des bureaux célèbres?
Le bureau des légendes.
Non, le bureau de je sais pas, c'était Louis XV, je crois.
Louis XV, peut-être.
Oh, bah, Louis XVI, Louis XVII.
Un truc comme ça.
Alors, après, effectivement, tous les dirigeants ou les rois ont en général un bureau qu'on connaît, qui est conservé. Mais effectivement, un bureau célèbre, c'est le secrétaire à cylindre de Louis XV.
À cylindre.
À cylindre, parce qu'on peut le refermer.
Ah, ça s'appelle comme ça.
Il y a un abattant, voilà. Okay. Donc, il est construit entre 1760 et 1769. Ils mettent quand même 9 ans pour construire le bureau. Mmh. Ils mobilisent l'intervention de 14 corps de métier. Donc il y a des ébénistes, des bronziers, des ciseleurs, des doreurs, enfin bon, plein de personnes. Il est couvert de marqueterie de bois. Alors c'est du bois.
Bois des îles,
certains bois exotiques, voilà, mais certains bois aussi d'ici. Et c'est orné de pièces ciselées en bronze. Il a une particularité, donc c'est l'abattant qui se referme totalement. Sur le bureau, donc ça cache complètement l'espace de travail et les tiroirs.
Et ça se fermait à clé, j'imagine.
Et il y a une serrure, voilà. Il y a une clé que le roi garde, et les domestiques pouvaient remplir le bureau, enfin le secrétaire, d'encre et de papier, sans ouvrir le secrétaire.
Comme ça, quand il ouvrait,
il y avait des petites trappes sur les côtés, en fait, dissimulées, et du coup, il pouvait remplir directement comme ça. C'est fort.
Il y avait d'autres petites trappes, d'autres petites choses.
Alors à l'intérieur, oui, il y avait des petits tiroirs, il y avait des choses pour que Louis XV puisse.
Les tiroirs secrets.
Oui, c'est ça, il y a des trucs secrets.
Travailler comme ça. Voilà, et puis ensuite, effectivement, à chaque époque, il y a un style de bureau. Alors ça suit le style des meubles, en fait. Hein. Le bureau suit le style des meubles. Mm-hmm. Et voilà, il y a des bureaux célèbres, hein, celui de Napoléon, effectivement. Il y a le célèbre bureau, alors c'est pas un bureau, mais c'est celui de l'Assemblée nationale, qui est tout en haut.
Oui, le perchoir.
Le perchoir, voilà. Donc c'est une sorte de bureau, de toute façon. Donc celui-là, il est célèbre aussi.
Un bureau de Bill Clinton, aussi.
Pas forcément. Hein, c'était le même que Trump.
Oui.
Alors ça, c'est le bureau. Alors ça, c'est le bureau du président.
Bureau ovale.
Bureau du président des États-Unis, c'est le bureau ovale. Effectivement, c'est le lieu, c'est la pièce qui est célèbre. Ouais.
Très bien. Voilà. Eh bien, écoute, merci Florian pour tout ce travail que tu as fait. On le rappelle, au bureau. Sur un bureau. Un bateau, c'est chou. Bateau, c'est chou. Qui dit chou dit Vendée. Voici la chronique de Nicolas.
C'est quoi ce sport où 30 tarés luttent contre la mort chaque jour pour finalement revenir vivant en Vendée où c'est pire.
Je
la connaissais pas. Tu la connaissais
pas, celle-là? Ah non,
un petit Loralone sur la Vendée, Vendée Globe.
C'est beau, c'est beau. Après des petites vacances du côté de Lorient et de son port consacré à la course au large, j'ai décidé de larguer les amarres et de vous parler de cette épreuve qui se déroule tous les 4 ans et qui me fascine depuis que je suis en fait tout jeune, c'est le Vendée Globe. Alors le Vendée Globe, c'est peut-être la course la plus prestigieuse des courses à la voile. Le parcours, il fait en tout 46 000 km, le tout sans escale, mais surtout en solitaire. Mmh. L'aventure, elle commence donc au Sable d'Olonne, en Vendée, et elle se termine au Sable d'Olonne. Hein.
Attends, ils font 46 000 pour arriver au même endroit.
Ah ouais,
ils pourraient aller dans les îles, dans les machins, tout ça, et ils se retrouvent.
Escales, voilà.
Ah ouais, ils sont quand même pas fuites quand même.
quand on voit le Sable d'Olonne, ouais, ça donne pas envie de revenir.
Non, si t'as le choix avec 46 000 km, j'irai pas au Sable d'Olonne.
J'irai pas au Sable d'Olonne non plus. Voilà. Bon, après, c'est les organisateurs, ils décident.
D'accord.
C'est pas mon problème.
Oh, mais quelle idée!
Alors évidemment, les skippers ne font pas le tour du monde au niveau de l'équateur, bah, de toute façon, il n'y a pas la place. Mais si le Vendée Globe est aussi prestigieux, c'est parce que son tracé passe par toutes les mers les plus dangereuses au monde, mais aussi par les lieux mythiques que je vais vous détailler durant cette chronique. Tout d'abord, revenons sur le parcours donc. Après le départ des sables, les navigateurs mettent le cap au sud, vers ce qu'on appelle les Alizés. Alors non, ce ne représente pas un groupe de reprises de la chanteuse Susnoé, mais bien un secteur dans l'Atlantique, au large de l'Afrique subsaharienne, où les vents soufflent d'est en ouest. Ces vents vont leur permettre de franchir l'équateur avec, à ce niveau, la première grosse difficulté du voyage. On appelle ça le poteau noir, donc le pot au noir.
Ouais.
Une zone où en fait les vents du sud et les vents du nord se entrent en contact.
Ah oui, donc ça tourbillonne du
donc
coup.
Donc ça tourbillonne un peu, et en fait c'est une zone très orageuse, donc à des endroits où on a des gros cumulus avec beaucoup de pluie, et des endroits où en fait c'est totalement plat, il n'y a pas de vent, donc c'est assez compliqué de naviguer là-dedans. Et donc une fois cette zone franchie, les bateaux contournent l'anticyclone de Sainte-Hélène, au large de l'Angola et de la Namibie. Ici les vents ils soufflent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui leur permet de passer en dessous de l'Afrique.
D'accord.
Qui les pousse donc vers l'océan Indien. À partir de là, les voiliers font le tour de l'Antarctique, et c'est ici que le mot « tour du monde » prend tout son sens. Si on mettait la planète à plat, en fait, on verrait qu'ils descendent l'Atlantique, et hop, ils font le tour de l'Antarctique.
Et puis ils reviennent derrière, d'accord, ok.
Donc voilà, donc ainsi, ils vont ainsi pouvoir passer environ 60 jours dans cette, à faire le tour de l'Antarctique, le long de ce que l'on appelle les 40e rugissants. 40e parce que tout ce qui se... Alors attendez, 40e parce qu'il se trouve au niveau du 40e parallèle sud. Vous savez, c'est les lignes imaginaires parallèles à l'équateur qui permettent de déterminer la latitude d'un point à la surface du globe. Donc par exemple, à Angers, on se trouve entre le 45e et le 46e parallèle nord.
Ok. Alors, et pourquoi rugissant alors?
Alors pourquoi on appelle ça les 40e rugissants? Parce qu'en fait, c'est ici que ça se gâte. Jusque-là, le Vendée Globe était une promenade de santé, c'était un pique-nique au bord de la Maine,
ouais,
c'était une promenade avec Kiki le chien un dimanche matin, bref.
Ah oui.
Jusqu'ici, les marins, ça va. Mais donc à partir de là, les marins, ils font face au pire. Là-bas, les vents, ils sont déchaînés. Les marins longent donc ce 40e parallèle dans un froid pas possible. Il fait entre 10 et 12 degrés de moyenne.
Oh, la vache.
Font face à des rafales de vent et naviguent dans des creux de 8 mètres. Et même des vagues scélérates, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces vagues qui font des fois peut-être plus de 20 mètres. Le tout en devant faire attention à ne pas dépasser la limite des glaces, cette zone interdite car trop au sud et donc trop proche des icebergs qui vallonnent les mers.
Ils peuvent se tomber nez à nez avec un iceberg aussi.
C'est ça. Et en fait, dans les premières éditions du Vendée Globe qui a commencé en 1996, il n'y avait pas de limite.
Donc, ah oui,
en
fait, donc des fois, ils descendaient trop bas.
C'est ça. Et en fait, ils descendent trop bas parce qu'en fait, du coup, tu fais moins de parcours. Si tu vas très très bas, tu longes l'Antarctique, tu fais moins de parcours, donc tu fais moins de temps.
C'est pas facile de faire un créneau ou de changer.
C'est pas
de...
facile. Et puis surtout, il y a beaucoup d'images qu'on voit de ces périodes-là où ils croisent des icebergs à 50 mètres du bateau. Quoi. Donc c'était très dangereux. Donc dans les mers du Sud, les marins, ils passent aussi des caps mythiques. Donc ils commencent avec le cap de Bonne Espérance. Alors moi, j'appelle ça le cap de Bonne Chance en fait, parce que c'est au début de la traversée. Donc c'est au large de l'Afrique du Sud, donc il passe aussi le cap Lewin au sud de l'Australie, mais aussi et surtout le cap Horn à la pointe de l'Amérique du Sud. C'est un cap qui signe la fin de ses 60 jours de souffrance pour le bateau, mais aussi pour le skipper. Donc c'est un peu une délivrance. Une fois le cap Horn passé, la route est mieux connue par les marins, parce qu'en fait ils l'ont déjà emprunté à l'aller. Donc en gros ils remontent l'océan Atlantique pour arriver au Sable d'Olonne. Donc ils repassent par le poteau noir, reprennent les Alizés, etc. et arrivent au Sable d'Olonne. Mais si le Vendée Globe est si célèbre, c'est autant pour son parcours que pour les histoires qu'il raconte. Le Vendée Globe, c'est avant tout une aventure humaine, cette course qui révèle la force et le courage des navigateurs qui se lancent seuls dans cette épreuve unique au monde. On se souvient tous de cette image d'une coque blanche retournée avec un navigateur face à une terrible alternative, les secours ou la mort. Dans l'immensité oscille de l'océan Austral. Voici une image vue et revue à la télévision et dans les journaux montrant le sauvetage de Raphaël Dinelli en 1996. Elle donne les frissons. Enfin, moi, personnellement, à chaque fois que je la vois,
il a été sauvé par un coéquipier, enfin, un autre bateau, c'est ça?
C'est ça.
Donc, c'est fou, les images.
À 2000 milles de l'Afrique, de l'Australie ou de l'Amérique du Sud, donc en fait, il était au milieu de nulle part. Les fonds sont à 2000 mètres de profondeur et les vagues hautes comme des immeubles. Et dans ces conditions, c'est dans ces conditions-là que le Alghimus, c'est le nom du bateau, de Raphaël Dinelli, s'était couché plusieurs fois. Et puis, sur une vague, le bateau accéléra. Pris 25 nœuds à toile sec, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de voile, il a pris 25 nœuds, puis 30. Et là, donc il dit Je suis tombé comme dans un ascenseur dont les câbles ont cassé. La limousine chavira complètement, le mât se brisa et troua le pont. L'eau se précipita à l'intérieur. La répartition des compartiments étanches aurait dû empêcher le bateau de partir au fond, mais la cloison avait été arrachée et le mât continuait à percer la coque. L'Australie était à ce moment-là à 1100 miles au nord-est. Dinelli déclencha sa balise de détresse et, avec de l'eau jusqu'au genou, trouva sa combinaison de survie avant de se réfugier sur le pont de son bateau, qui était en train de sombrer. Après avoir passé 10 heures dans son radeau de survie, il fut secouru par Pete Goss.
Dans ces cas-là, donc on redonne du temps à la personne si elle repart.
On redonne du temps, ouais, c'est ça. Enfin, c'est ce que je vais dire après.
Excuse-moi.
Donc le Vendée Globe, c'est une des courses les plus dures, sinon la plus dure, et c'est certainement pas un terrain d'aventure pour les Timorés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pendant ces 7 premières éditions, le nombre d'abandons pour cause technique ou disqualification à cause d'une aigle extérieure montre que dans l'ordre, donc première année, 54% des bateaux sont revenus, deuxième année, 47%,
ah oui.
Troisième, 40%, quatrième, 62%, cinquième, 67%, sixième, 37%,
ah, oula,
et la dernière, 45%.
D'accord.
Des partants sont arrivés. À chaque édition, il y a un peu ces sauvetages, et parmi eux, il y en a un qui fut sauvé et sauveur. Je parle ici de Jean Le Cam. La première fois en 2008, il chavire à 200 milles du Cap Horn. Il se réfugie sur la coque de son bateau pendant 30 heures dans l'espoir insensé que quelqu'un le retrouve. Il fut finalement sauvé par Vincent Rioux à bord de son PRB, donc c'est le nom du bateau. Mmh. 12 ans plus tard, en 2021, donc l'année dernière, il rend l'appareil à PRB quand il vient au secours de Kevin Escoffier, perdu dans les mers du Sud, dans son radeau de sauvetage après que son bateau soit brisé en deux dans une vague. Le bateau s'est retourné sur lui-même.
Ça donne pas envie quand même, hein.
C'est sur Jean Le Cam que j'aimerais, c'est sur cet homme que je voudrais terminer cette chronique, tant il est, pour moi, le visage de Vendée Globe depuis près de 20 ans. À lui seul, il a terminé cette course 4 fois. Ce loup de mer de 64 ans qui, lors de chaque édition, nous offre ses vidéos qui nous racontent toutes ses péripéties et la vie à bord de son navire, jour après jour. Alors si vous ne connaissez pas le Vendée Globe, je vous invite à regarder les vidéos de Jean Le Cam qui vous donneront le sourire autant qu'elles vous montreront l'espoir que représente le Vendée Globe.
Ok, bah écoute, ça fait autant rêver que ça fait peur en fait.
C'est ça, c'est toute l'image de cette compétition. C'est
cool. Très bien.
Et c'est quand le prochain?
Le prochain, ça va être en 2024.
D'accord.
Ouais. Surtout, moi, ça me fait halluciner. 30 heures sur un bateau,
voilà.
Au milieu de l'eau.
Ouais. Beaucoup froid en plus. Ouais.
Ouais. Ouais, il fait froid, t'as le sel. Alors là, Dinelli, là, Raphaël Dinelli, il a vraiment cru qu'il allait mourir.
Ah bah, tu
et il a été secouru par Pete Goss qui avait heureusement des
moufles.
Des moufles. Et un bonnet aussi, c'est très utile. Mais il avait aussi des comment dire, des techniques de survie qu'il avait appris pendant la marine royale.
Ah ouais.
Et ça a permis de le sauver, mais en fait il était vraiment dans un état critique. Et je pense qu'à quelques heures près c'était fou.
Ok, merci Nicolas. Merci. Alors on parlait de rêve ou de cauchemar. Eh bien, il y a une série qui est sortie du lot cet été. Loin de nous endormir, elle parlait pourtant de rêve. Cela lui a inspiré son sujet. Voici la chronique d'Olivier.
Oui, donc tu as raison, il y a la série Sandman qui est sortie cet été, donc une série remarquable, et enfin, personnellement j'ai trouvé super. Donc on retrouve des références au mythe du marchand de sable dans cette série, Sandman, l'homme des sables. Donc d'où vient ce mythe du marchand de sable? Alors les origines sont diverses. Alors tout d'abord, le héros dans la série Sandman, on l'appelle Rêve ou aussi Morpheus. Alors Morpheus, ça vient avant tout de la mythologie grecque et romaine, donc le mythe de Morphée. Morphée et eux, donc c'est pas une femme. Hein. Je vous annonce, c'est un homme, Morphée, pour ceux qui ne savaient pas.
Putain, moi je vais dans les bras de Morphée.
Oh bah oui, merde, dans le bras d'un homme.
On m'aurait menti.
Donc Morphée, c'est le fils d'Hypnos, dieu du sommeil, et de Nyx, déesse de la nuit. Donc Hypnos, qui a donné Hypnos en français, là, le sommeil, et puis Nyx.
Oui, d'accord, on imagine, oui.
Non, quand on parle d'animaux nyctalopes.
Oui, bah,
tu fais ce que c'est tu des veux numéros nuit, qui hein. voient la nuit.
D'accord.
Des animaux qui voient la nuit.
Ok, très voilà. bien.
Alors, Morphée, il est chargé d'amener les humains dans le monde des rêves. Donc, il a avant tout des ailes de papillon. Et en fait, il donne le sommeil en touchant les personnes avec des graines de pavot.
Oh bah tiens, tu m'étonnes.
Voilà, à l'époque, ouais, le pavot, c'était un mammifère.
Ça rappelle la chronique de Manu.
Et pour apporter les rêves, bah, en fait, il tient un miroir qu'il tend aux personnes qui veut s'endormir. Et puis aussi, Morpheus, donc, soit c'est les graines de pavot, et soit plus poétique, il peut aussi changer de forme et prendre l'apparence de n'importe qui, en fait, pour rassurer la personne qui veut dormir, et la personne s'endort dans les bras de la personne qu'elle aime ou qu'elle désire.
En fait, c'est Morphée.
Donc c'est Morpheus, donc morphe, morphologie, métamorphose, tout ça, ça le fait de changer d'apparence, c'est aussi lié au mythe de Morphée.
D'accord.
Ils sont pas cons quand même. Hein.
Non, c'est pas...
Ils ont réfléchi.
Ah ouais.
Donc on retrouve un petit peu de cette créature qui fait dormir les personnes. Alors après, au Moyen-Âge, il faut savoir que le marchand de sable, c'est un métier comme un autre. Il faut savoir que dans les auberges, les sols étaient très glissants. Donc il y avait des marchands de sable qui passaient régulièrement et qui fournissaient du sable aux aubergistes qui étalaient alors le sable sur le sol pour le rendre moins glissant. Donc, ouais. C'était un vrai métier à part entière.
Et ça a un rapport avec...
Non, mais je vous fais toutes les références aux
marchands de sable. Ah, marchands de sable, d'accord, quoi. Mais il n'y a pas de rapport avec le sommeil.
Non, là aucun. Okay. Ça va venir.
Bah, c'est fatigant, quoi, donc à un moment donné, il dormait.
Oui, c'est possible.
C'était juste
oui.
que ça existait. Oui, oui, oui.
Bah, pour éteindre ça au micro, si tu veux.
Oui, vas-y. Et en fait, il faut attendre la littérature, surtout au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, où certains écrivains vont prendre un peu tous ces mythes et les adapter en créant un homme qui fait dormir les enfants. Alors, par exemple, au XVIIe siècle, il y a eu Antoine Furtière, lui qui évoque dans un roman un homme qui envoie du sable dans les yeux des enfants.
Super.
Voilà. Mais pour les faire
Allez,
dormir.
Tu vas dormir, toi.
Et c'est là qu'est née l'expression avoir du sable dans les yeux au XVIIIe siècle. Ah,
oui. D'accord.
C'est à peu près au XVIIe siècle qu'il y a vraiment cette création du marchand de sable qui envoie du sable dans les yeux des enfants. Il faut attendre aussi le 1817 avec une nouvelle d'Hoffmann qui lui écrit un roman qui s'appelle Der Sandmann. Donc là, l'homme de sable, il décrit un méchant homme qui vient trouver les enfants quand ils refusent d'aller au lit. Et là, il leur arrache carrément les yeux.
D'accord.
Alors, au début, c'était vraiment un être très très méchant. Fait, le Sandman, ça vient beaucoup de la littérature germanique. Donc là, on avait un mélange un petit peu du croque-mitaine, quelqu'un qui fait peur aux gens. Et puis aussi le mythe du Nachtkrab. Nachtkrab, en fait, c'est un oiseau de nuit qui capturait les enfants quand ils étaient pas très sages.
Okay. Ça donne envie de dormir, en tout cas.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est une sorte de beau rêve.
Ouais, oui. Et puis, une autre littérature aussi danoise avec les fameux contes d'Andersen. Donc, au XIXe siècle, là, Andersen a écrit un roman qui met en scène un elfe qui s'appelle Ferme l'œil. Et Ferme l'œil, donc c'est pareil, c'était une sorte de marchand de sable qui avait un parapluie. Et donc, il était chargé de faire dormir les enfants. Donc, pour les faire rêver, il ouvrait son parapluie. Il avait un parapluie avec plein d'images, plein de photographies. Et voilà, et les enfants rêvaient de ça. Et puis, quand il voulait pas que les enfants ne rêvent pas, il ouvrait un parapluie tout noir. Et là, les enfants faisaient des cauchemars.
Voilà. Ah, bon. Okay.
Voilà. Et puis, le marchand de sable, celui qui fait dormir les enfants, c'est avant tout un être pas très sympathique, peu maléfique.
Disais, oui.
Rien à voir avec le marchand de sable français qu'on connaît tous.
Pom, pom, hein. Pom, pom, pom,
Donc Bruno, tu as connu ça, toi?
Non, mais ça fait partie de la culture.
Voilà, c'était Bonne Nuit. Bah, si, moi, j'ai connu. C'était Bonne Nuit les Bonnes Nuits les Petits.
Je me souviens pas trop, je suis trop jeune.
Bonne Nuit les Petits, avec Nicolas et Pramprenelle, avec Nounours, et puis qui était avec un marchand de sable, qui lui jetait plus des paillettes à la tête des enfants.
D'accord. Même moi, j'ai eu des cassettes vidéo où il y avait ça.
Ah bon?
Donc Bruno.
D'accord. Ah ouais.
Il dormait déjà, Bruno, c'est pour ça.
Il dormait déjà, oui.
Alors, l'homme de sable effrayant de Hoffmann, que j'ai cité tout à l'heure, lui était remplacé là par un personnage sympathique. Voilà, donc et puis aussi, le marchand de sable, il y a dans plusieurs pays, il faut savoir qu'en Allemagne, donc on l'appelle le Sandmännchen, et puis au Québec, là, on l'appelle le bonhomme 7 heures. C'est son surnom. D'accord. C'est un vagabond maléfique qui fait peur aux enfants.
Au moins, on a l'heure où il faut se réveiller.
Pas. Voilà, donc on est passé d'un marchand de sable qui fait peur aux enfants à Nounours, qui rassure les enfants.
Très bien, merci Olivier. Il est temps maintenant de découvrir le CMA+ de la dernière émission. J'en
peux plus. Chaque semaine, un panel d'auditeurs vote pour la chronique qui leur a appris des choses ou qui les a amusés. Celui qui a le, ou celle qui a le plus de voix est déclaré CMA+, et se retrouve dans le podcast CMA+, des meilleurs moments de l'émission. À la dernière émission, nous avons parlé tennis avec Nicolas, des séries dérivées avec des appareils électroménagers, de l'école des arts et métiers, des poupées et des espadrilles. Eh bien, le CMA+ de cette semaine a de gros seins, puisque ce sont les poupées de Manu qui remportent la première place. Bravo Manu. Et ce n'est pas grâce au lobbying de tes amis.
Ah oui, bah, j'ai essayé, ouais. Qu'est-ce que tu veux.
Voilà, mais quand même, tu as gagné aussi. Voilà. Hein. Allez, bravo aussi aux autres chroniqueurs et bonsoir à Robin, merci d'être venu, merci Mathias,
merci, bisous.
Merci Nicolas,
merci
Olivier,
merci
Florian,
merci à tous.
On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit, et d'ici là, n'oubliez pas, on ne peut pas être sans avoir été, j'ai oublié qui ?
Manu.
Mais non, puisque je t'ai dit bravo Manu tout juste avant.
Non mais tu m'as pas dit au revoir.
Bon d'accord, au revoir Manu.
Au revoir.
À la prochaine fois.
Oui.
En tout cas, n'oublie pas, hein, on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.